L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. De l'archéologie encore, le sujet est riche quand on fouille un peu dans le Finistère. Les traces du passé sont très nombreuses, de tous les passés, de la préhistoire à la plus récente. Nous recevons régulièrement dans l'EM des archéologues dont c'est le métier. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se tourner vers ces passionnés qui prêtent main forte aux professionnels de l'archéologie. Des personnes qui passent leur temps le nez et les yeux surtout vers le sol, à l'affût de quelques indices. Et oui, sans ces passionnés du passé, on aurait peut-être loupé bien des découvertes. Un passionné est avec nous aujourd'hui. Son terrain favori se trouve du côté de Quimper, mais il va dans tout le Finistère. Et peut-être, il va nous expliquer. Bonjour David Duvollet.
Bonjour.
Alors expliquez-nous déjà, comment est-ce que tout simplement vous êtes intéressé à l'archéologie en général, quoi.
Bah, à vrai dire, j'étais tout jeune, j'avais 5 ans, j'étais à la pointe du vent avec mon ami d'enfance, puis je grattais toujours les cailloux sur le tas de terre, et je ressortais les silex, donc ça date vraiment de l'enfance.
Des silex qui se sont avérés taillés.
Ouais, des vrais silex. Parce que moi, je n'avais pas fait trop attention au départ, c'est elle qui m'en a reparlé un peu plus tard, elle me dit « Oh David, tu te souviens de tous les silex que tu me montrais ?» J'ai dit « Ah bon ?» Et puis voilà. Et donc, suite à ça, ma grand-mère était passionnée aussi. Donc, c'est vraiment de l'enfance. J'adore les pierres.
Bon, mais c'était les pierres plutôt.
Pierre silex, vraiment, vraiment, vraiment taillé, vraiment préhistorique.
D'accord. Et là, en fait, il se trouve que vous êtes prospecteur, vous allez nous expliquer, hein, officiel, entre guillemets.
Oui, oui.
Comment est-ce que vous avez découvert cette fonction?
Cette fonction, j'avais trouvé donc des bas-fourneaux dans mon jardin lors de travaux en 2012.
Ah, c'est quoi, en gros, des bas-fourneaux?
Des bas-fourneaux, c'est donc c'est de la métallurgie gauloise, c'est les osismes. À vrai dire, c'est le déchet du four. C'est une technique de chauffe, de fabrication du fer. Donc, eux avaient cette technique qui recouvrait donc avec du bois le minerai. Ils laissaient ça chauffer. Et il y avait un résidu qui ressortait. Et dans ce résidu, on retrouve du charbon de bois et tout ça. Donc, du coup, ça s'appelle un bas-fourneau. C'est cette technique-là. Ça...
Et ça, dans votre jardin, alors?
Oui. Donc, j'ai appelé Cécile, elle est venue sur place.
Donc, Cécile qui est
Cécile Le Carlier, qui travaille au CNRS, paléométallurgiste. Voilà. Et donc, elle m'a dit, oui, David, c'est bien des bas-fourneaux, de la taine. Donc, on a fait un carbone 14, c'était moins 330 avant Jésus-Christ.
Donc, la taine, c'est en gros la période qui comprend les Gaulois, enfin.
Ouais, c'est ça, la fin, quoi. Ouais. Voilà, c'est avant le gallo-romain. Mmh. L'invasion.
Exactement, avant. Ouais.
Juste avant. Et donc, suite à ça, elle m'a dit, David, comme j'allais beaucoup dans la campagne, et puis finalement, j'avais trouvé à peu près 60 ateliers de fonte. C'était à Tours.
Dans le centre. Ouais, avec R'H.
Ouais, c'est ça, dans le centre Finistère. Donc, elle m'a dit, ici, on est vraiment sur une grosse industrie métallurgique gauloise, donc, qui était perdue. Voilà, donc j'ai commencé à référencer tout ça dans la commune de Tours. Et elle m'a dit, si tu veux, il existe une assermentation, on peut être prospecteur diachronique.
Ça veut dire quoi, ça, diachronique?
Diachronique, ça touche toutes les périodes, donc du paléolithique inférieur jusqu'au Moyen-Âge, voire un peu plus. Donc, j'avais aucune connaissance, je démarrais vraiment de zéro. J'ai dit, pourquoi pas? Donc, je l'ai accompagné pendant 2-3 ans d'affilée au centre du FAOU, où il y avait une réunion de programmation pour me faire connaître.
Centre départemental archéologie, hein, qu'on reçoit régulièrement.
Voilà avec Muriel Philly. Mmh. Et du coup, ils avaient besoin de me connaître. Il fallait créer une confiance, voir quelles étaient mes motivations, tout ça. Donc je venais dans ces réunions. J'avais fait ma demande de... Donc c'est une demande d'assermentation de prospection diachronique qu'on fait. On fait vraiment la demande à la DRAC à Rennes.
Donc la Direction régionale des affaires culturelles, le ministère en gros. Hein,
c'est le ministère.
Ouais.
Et donc suite à cette demande, eux vont étudier le dossier, voir si c'est positif ou pas.
Mais vous devez répondre à un questionnaire pour montrer vos connaissances. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Même pas. La confiance se crée suivant les motivations dans ces réunions de programmation. Eux vont vraiment voir à qui ils ont affaire et on y est à peu près une demi-journée, donc on crée des contacts.
Bon, mais c'est pas des réunions où on vous forme à reconnaître, non. Je sais pas, un silex taillé d'un non. silex naturellement.
J'ai eu aucune formation, donc j'ai tout appris moi-même depuis 10 ans. J'ai appris dans les bouquins, tout comme un étudiant.
Ah ouais.
Voilà. Ouais.
À vos heures perdues, entre guillemets.
À mes heures perdues, donc j'ai appris le paléolithique. Comment on arrive à définir un paléolithique inférieur, un paléolithique moyen, un paléolithique supérieur, après la culture du Bertum, qu'on trouve beaucoup dans le département.
C'est quelle période, ça?
Là, on arrive à peu près à moins 9000 ans, entre moins 9000 et moins 8008.
Donc on est encore au paléolithique chez nous, c'est pas encore du néolithique.
On est au mésolithique. C'est le début du mésolithique, c'est la transition entre le paléolithique supérieur et le mésolithique, où là, il y a un gros changement climatique qui s'est fait. Donc, au paléolithique supérieur, c'était des chasseurs-collecteurs où il faisait encore froid. C'est de l'asilien. Ils vont beaucoup, beaucoup marcher, beaucoup chasser. Et ils font avec leur environnement. Tandis que la transformation, il va faire beaucoup moins froid. On va arriver donc où le noisetier va commencer à sortir. On passe d'un...
Réchauffement climatique,
ouais,
déjà.
Voilà, de la toundra. Ah, vraiment un changement, on va arriver dans des bois, changement climatique, et donc le mésolithique.
Le niveau de la mer remonte aussi, c'est là que en fait, la Bretagne redevient côtière, enfin l'Armorique si on veut.
Ouais, donc elle va remonter tout doucement, la mer, la fonte des glaces, et donc l'homme va avoir la résilience, c'est-à-dire il va se transformer, s'adapter à son environnement qui va être les forêts.
D'accord, beaucoup de forêts quoi.
Beaucoup de forêts, donc là il va commencer à utiliser l'arc. Et sur l'arc, on trouve des flèches, du silex, et il va y avoir vraiment des typologies suivant les périodes, une taille. Et le Bertum, lui, il va être plutôt sur la petite industrie. Ce sont des petites lamelles qu'on trouve retouchées sur le dos, à bord abattu. Elles vont faire 1 cm, 2 cm. Pourquoi petit ? Parce qu'il a besoin de bouger. Donc, il va faire une économie aussi de sa matière première.
Oui, il ne s'encombre pas de bagages.
Voilà, enfin, c'est
la matière première, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser.
Bah
oui, mais le silex, il n'y en a pas des masses en Bretagne.
Il n'y en a pas des masses.
Où est-ce qu'ils ont trouvé alors?
Il va sur les cordons du littoral. Donc, justement, comme la mer monte, on va trouver encore du silex qui a été ramené du... Il y a un gros cordon à 50 km
au large.
Et la mer va ramener ses galets... sur la côte.
Donc ils reconnaissent les galets en silex en fait, et puis ils s'en servent.
Tout à fait. Donc sur le silex. Et il y aura aussi d'autres. Donc après, je me suis formé aussi à tout ce qui est la minéralogie, donc tout ce qui va être vraiment les matières premières qu'on trouve sur place. Style le gréocène qui a été beaucoup utilisé. Il y a trois gros filons. On trouve un filon au Porzay, un filon à Gwengat, un filon du côté de Moulin du Pont.
C'est pas les grès de Postelonec, c'est autre chose.
C'est sablonneux. On est sur le tertiaire là. C'est vraiment une formation qui date de cette époque-là.
Et ça leur sert à quoi ces grès à faire?
Ils vont faire pareil des flèches, des outils, c'est tranchant. Donc ils vont l'utiliser. Et après il y a une autre matière aussi. Donc on parle vraiment du Finistère Sud. Ça va être l'ultramylonite. L'ultramylonite, on la trouve sur la faille sud-armoricaine. C'est à peu près, on la trouve sur 100 mètres. Il faut vraiment être dessus. C'est une roche magmatique. On la trouve qui va être vraiment créée à 50 km de profondeur. Il faut vraiment une grosse perturbation magmatique, volcanique, de grosse pression. Donc, on va retrouver des filons et que l'homme du mésolithique va utiliser aussi cette matière première dans les terres. On la trouve un peu en bord de mer, mais il va faire des flèches. C'est l'équivalent du silex, c'est aussi tranchant. Et on en trouve beaucoup moins, pourquoi? Parce qu'il a tout utilisé, les gisements, il les a épuisés, il a utilisé cette matière première.
Ah ouais, déjà on était capable d'épuiser une ressource à cette époque.
Ouais, voilà, c'est ça.
On est très fort. Hein.
Ouais, mais ça se joue quand même sur 2000 ou 3000 ans.
Ouais,
quoi.
C'est ça, on prenait un peu plus le temps que maintenant.
Ils prenaient le temps, à vrai dire, ils avaient le temps, c'est ça aussi. Donc...
à quel endroit exactement vous prospectez en fait?
Donc je prospecte beaucoup dans tout le Finistère Sud, beaucoup plus dans le centre Finistère. Parce que pourquoi ? Parce que c'est très dur. Ah, beaucoup de parce que c'est dur, on trouve pas du silex, les champs sont cultivés, mais il y a vraiment pas cette usure de la mer où c'est beaucoup plus facile de prospecter en bord de mer, genre en pays bigoudin, il y a du silex partout, ou à Crozon. Non, moi l'idée c'était d'être un peu plus subtil, un peu plus dur, aller dans les terres.
Ah, vous vous lancez des défis en fait, quoi.
Ouais, je me suis lancé un gros défi. Et j'ai regardé la carte archéologique et j'ai dit, tiens, il n'y a pas de site là, moi je vais en trouver. Mon but, c'était de trouver l'indice où il n'y avait pas d'indice.
Et vous en trouvez, vous avez trouvé?
J'ai trouvé plein de sites, 200 sites à peu près.
Oh la vache. Excusez-moi. Et vous avez trouvé... Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme site, par exemple?
Donc j'ai trouvé du paléolithique supérieur, de l'asidien, beaucoup de mésolithique, ce qu'il n'y avait pas sur les cartes archéologiques.
Donc quoi, dans les monts d'Arrée ou
non, on va être sur Tours, Corée...
Montagne Noire plutôt.
Lyon, ouais. Et donc du coup, le conseil aussi départemental du Morbihan m'a demandé de travailler avec lui.
Ah oui, donc c'est pas seulement le Finistère.
Non. Ah ouais. Et pour, ils ont ouvert une fenêtre d'assermentation sur Roudoualec, Gourin, des endroits vraiment difficiles où il n'y a rien.
Quand vous êtes assermenté, c'est sur un territoire donné?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, donc le but du jeu c'était de trouver donc, des indices de chasseurs-cueilleurs dans cette région de Roudoualec, Gourin, Tours, voilà, tout ce coin.
Et vous avez trouvé.
J'ai trouvé, notamment aussi des abris sous roche, c'est où l'homme de cette période s'abritait justement.
Juste pour bivouaquer.
Ouais. Et on peut trouver... des indices, on peut trouver avec un peu de chance du silex, avec la pluie qui a drainé tout ça. Ou avec le positionnement aussi des éléments, la rivière, des petites vallées encaissées, l'abri du vent, tout ça, ça rentre en compte. Et le but du jeu, c'était de recréer une carte avec tous les indices de l'homme, par où il est passé... D'où a été le groupe principal, et donc ça c'était un gros projet du côté de Gourin et Roudoualec que j'ai réussi, j'étais content.
Et donc il est passé par là alors lui-même,
ouais.
De toute façon il est passé par là.
Et donc j'ai réussi le but du jeu c'était de retrouver le point de base, entre guillemets, hein, c'est-à-dire où jusqu'à où il serait monté.
Ah oui, alors c'était quoi leur trajet en gros?
Souvent c'est la côte, donc j'ai suivi la rivière Limam. Et ouais, du côté de Guiscrif, là, un peu dans ce coin-là, et il fait des antennes, c'est-à-dire qu'il vient de la mer, ou il vient de loin, cet homme-là, et il remonte. Donc il va créer comme des petites bases le long de cette rivière, et jusqu'à une grande base où il va s'arrêter, où il y aura peut-être la famille, les enfants, les femmes, le camp.
Donc là, c'est des chasseurs-cueilleurs. Hein,
c'est des chasseurs-cueilleurs, et après, il repartait vers la mer, donc il bougeait. Mais avec le silex, on arrive à retrouver ces petites bases et ces grands camps.
Et ces grands camps, c'était où le grand camp final alors?
C'était un peu dans les montagnes noires, donc je ne peux pas être trop précis.
Oui, bien sûr, il ne faut pas le dire, voilà. Parce qu'après, il y a des risques de pillage, en fait, c'est ça. Hein.
Exactement, on va dire, on arrive vers Gourin. Quoi.
Et donc, quand vous trouvez des indices suffisamment nombreux, est-ce que ça peut déclencher des fouilles archéologiques derrière? Est-ce que c'est arrivé dans votre cas?
Disons que c'est l'avantage, c'est que ça peut créer, s'il y a besoin de faire une usine ou une maison, donc il va y avoir une fouille préventive. Et c'est déjà arrivé,
ouais. Qu'est-ce que vous avez comme site qui ont été fouillés?
À Corée, j'avais trouvé un site du Mésolithique, donc ils ont fouillé dans la zone artisanale continuée, ils ont trouvé du bronze ancien. Voilà, suivant ma... Donc il y avait du méso, on a dit, David, on va fouiller un peu plus à côté, ils ont trouvé. Ah, je suis content.
Ah bah j'imagine, et quand vous allez donc prospecter un endroit, c'est sur commande en général, c'est pas votre... Enfin si, ça peut être votre initiative.
À vrai dire, je vais aussi me promener dans les champs, et à vrai dire, on va dire que beaucoup c'est en promenade aussi.
Et il y a des endroits où vous aimez vous promener parce que vous vous dites que vous pourriez trouver des artefacts ou des indices?
J'aime bien aller le long des ruisseaux. Mais c'est beaucoup quand même au feeling. Ouais, mais il n'y a pas réellement d'endroit parce qu'on a des surprises. J'ai souvent dit le mésolithique qui se trouve en bas des ruisseaux, ils ont besoin d'eau. Mais moi, j'ai trouvé du mésolithique sur des collines aussi. Donc, c'est surprenant. Logiquement, les collines, c'est plus le néolithique. Bon, ils avaient besoin d'observer. ils avaient déjà leur maison.
C'était... Ah oui, pour leur surveiller s'il n'y avait pas des ennemis qui arrivaient, en fait. Quoi.
Non, non, c'était plutôt l'agriculture.
Ouais, c'est ça.
C'était presque le début de... À vrai dire, c'est le début du changement de l'homme. Quoi. Il a commencé à transformer son environnement.
Il se sédentarise.
C'est ça.
C'est alors que le mésolithique, c'est encore des nomades, en fait.
Voilà,
c'est ça
très, très nomades. Donc, c'est très difficile à trouver ces indices parce qu'ils bougeaient beaucoup. C'est petit. Ça va faire 1 ou 2 centimètres. Donc, il faut vraiment être formé. Il faut sentir les choses. Il faut sentir le terrain. Quoi. Je me mets à leur place. Donc, depuis 10 ans, et ça marche bien. Il faut sentir. Je suis, par exemple, des pistes de chevreuil où j'ai remarqué que sur les haltes de chevreuil, je trouve des flèches, je trouve du silex.
Est-ce que vous pensez que les chevreuils du mésolithique, enfin, il n'y avait pas de chevreuil d'ailleurs à l'époque.
Il y avait des cervidés, mais ils suivent toujours le même trajet depuis la nuit des temps. C'est une théorie que j'ai suivie en tant que prospecteur. Et ça se vérifie. Marche bien.
Et donc vous prospectez tous les combien ? Enfin, c'est quoi votre rythme
À vrai dire, c'est souvent le week-end. Autrement, dès que j'ai un peu de temps personnel, je vais en prospection, voilà.
Et alors, c'est quoi la méthodologie ? Enfin, s'il y a une méthodologie.
La méthodologie de la prospection diachronique, on va ouvrir une parcelle, donc on va arriver, on va faire un trajet, 2 trajets, 3 trajets.
On marche, en fait.
On va vraiment éplucher la parcelle. Ça, c'est la technique officielle. Moi, ça va être, je vais me promener, je vais attendre et je vais sentir les choses. À vrai dire, ça marche bien. Et je vais commencer, si je trouve un silex, 2 silex, je vais me mettre un peu en transition, dans le champ. Je vais regarder d'où vient le vent dominant, je vais me mettre où est le soleil, je me mets à sa place.
Vous devenez l'homme préhistorique, en fait.
C'est ça, le chasseur-cueilleur.
Je comprends.
Et il faut vraiment être très ouvert à la nature, très ouvert aux sensations de tout cet environnement. Il faut vraiment bien étudier tout ça et ne pas avoir de mantras, de pièges, vraiment, vraiment très, 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 très ouvert.
Vous êtes vous-même chasseur, peut-être pas donc.
Ouais, c'est souvent l'archéologue spécialiste Grégoire Marchand me disait ça en rigolant. T'es un vrai chasseur-cueilleur, David.
Vous n'avez pas votre arc quand même pour tuer le chevreuil à la
fin ? Non. Mais, et puis, après, donc, je fais aussi les abris sous roche aussi. Il y avait eu un plan de commun, donc j'ai trouvé plein d'abris sous roche en observant, en se mettant. C'est génial, quoi.
Bon, dès qu'il y a une falaise, en fait, potentiellement, peut y avoir un abris sous roche qui a été occupé, quoi.
Enfin, en gros, oui. On imagine bien, ils mettaient leur bois, leur peau. Ils étaient là, les petits chasseurs, 4-5, voilà, quoi. Ouais.
Et donc, vous parliez de votre formation par les livres, mais j'imagine que... Enfin, est-ce que vous avez aussi fait des stages ? Parce que
donc,
vous savez tailler une pierre, par exemple, de façon préhistorique ?
Non, ça ne m'intéresse pas, dire. Non, c'est ça. J'ai fait aucune étude, aucune formation, rien du tout. Je me suis formé autodidacte, comme on dit.
Mais par exemple, moi, j'ai suivi, ça m'est arrivé de suivre un MOOC, là, ce qu'on appelle les MOOC, les cours en ligne sur les pierres taillées, justement. Je regardais ça. Vous en avez suivi, là, des...
Non, aucune. Aucune. J'ai vraiment repris, Grégoire Marchand, qui est donc le spécialiste en lithique. Il est chercheur au CNRS aussi, professeur à l'université, parce qu'on va en parler de l'université aussi. Et non, j'ai repris leur thèse, j'ai repris leur rapport et j'ai lu. J'ai vraiment essayé de voir la typologie et comment ça fonctionne. Ça fait 10 ans, par exemple, comment un nucléus, on peut reconnaître un nucléus du premier mésolithique.
Alors, nucléus, c'est un silex qui a déjà été un peu taillé, c'est ça ?
Enfin, ça, c'est la fin du galet, va dire. Voilà. Donc, il y a des techniques, vraiment, le chasseur-cueilleur du premier mésolithique... Souvent, il faisait le nucléus terminé en pyramide, en forme de pyramide. Donc voilà.
Faut avoir l'œil pour savoir ça.
Après, on arrive sur des mésolithiques moyens. On peut trouver sur des nucléus avec des lamelles, un petit peu unipolaires. Il y a unipolaire, bipolaire. Donc j'ai appris tout ça dans les livres, tout simplement.
Donc vous êtes spécialisé quand même. Enfin, vous disiez vous aimez les cailloux. Vous êtes spécialisé plutôt paléolithique pour ces raisons-là. Et puis finalement, vous Finalement, les métaux, c'est pas trop votre truc.
Les métaux, ça va être plus facile.
Ah oui.
Ouais, bah si, je me suis formé. C'est vrai qu'il y a des. Là, Cécile Le Carlier m'avait demandé de faire une recherche l'année dernière sur plusieurs communes, sur les bas-fourneaux, notamment. Je me suis formé sur les scories piégées et les scories écoulées. Donc, ouais.
Les coulures de métal.
Voilà, les scories piégées. Donc, on me dit ça, c'est gaulois, c'est osisme. On est sur la Tène. Après, on peut la retrouver même en première à l'Alstatt, hein, tout ça.
Donc c'est avant la date, 150 avant Jésus-Christ.
Ouais, on la voit, elle est là. Et après, la scorie écoulée. La scorie écoulée, c'est gallo-romain. Donc voilà, il y a des techniques. Est-ce qu'on va trouver de la céramique autour de cette scorie écoulée? Est-ce qu'on ne va pas en trouver? Donc la différence, ça va être là, parce qu'il y avait de la scorie écoulée au Moyen-Âge aussi.
Mais vous n'y connaissez rien en monnaie romaine ou médiévale?
Non, non. Je connais absolument rien du tout.
Et vous n'utilisez pas de détecteur de métaux?
Ah non, surtout pas. À vrai dire, ma particularité, je ne creuse pas, je n'ai pas de détecteur, c'est tout à l'œil.
Mais ça serait autorisé, enfin, en tant que prospecteur assermenté, vous pourriez utiliser ce type d'outil?
Pour en faire une demande, ouais, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Oui.
On s'engage à quoi, en fait, quand on prête serment comme ça prospecteur
Alors, donc, oui, il faut rendre un rapport en fin d'année. Souvent, c'est en octobre, novembre.
Donc, seul rapport par an.
Ouais, le mien a fait 350 pages cette année. Donc, j'ai trouvé 43 sites archéologiques.
C'est la moyenne annuelle, c'est ça?
Non, il y avait un peu plus. Ouais, en gros, oui. Ah ouais. Il y avait du paléolithique moyen, l'homme de Néandertal, il y avait du paléolithique supérieur, il y avait du mésolithique, du néolithique, il y avait des scories piégées, il y avait du gallo-romain. Donc après, il faut mettre en forme. C'est-à-dire qu'il faut aller faire le plan cadastral sur le géoportail, tirer donc l'emprise, prendre bien les mesures, la parcelle, faire une fiche de déclaration du site.
À chaque fois, vous prenez même l'objet en photo, en situation.
Voilà, il faut faire l'objet en photo.
Sa profondeur, etc.
Ouais, tout ça, ouais, la grandeur. Après, c'est pareil, si c'est du silex, faire une belle photo de silex, de présentation. Après, on va demander une description. Avant ça, j'ai demandé la validation auprès des archéologues. Donc, chaque site demande en gros 3 heures de travail informatique.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Informatique. Après, avant, il fallait aller sur le terrain. Donc, le terrain, c'est des fois plus compliqué parce qu'on est souvent, comme on dit, fanny. Hein. Ça ne m'arrive pas beaucoup. Mais,
c'est quoi, c'est bredouille?
Bah, bredouille,
ah,
quoi.
Ouais. Ok, d'accord.
Bredouille, mais c'est très, très rare. C'est très rare. Et donc, il y a, on va dire, 6-8 heures sur le terrain pour trouver ce site-là. Donc, après, il y a les 3 heures d'informatique, de rapport. Et après, il y a la construction du rapport. Ça va commencer, je le fais à partir du mois d'août, parce qu'il faut le rendre en décembre. Ouais, c'est vraiment très, très, très cadré.
Ah ouais.
Et la contrepartie, c'est de rendre ce rapport pour avoir des sites archéologiques et pouvoir les compléter sur la carte archéologique. Voilà ce que sert la prospection diachronique officielle.
Est-ce que vous avez droit de garder les pièces?
Non, j'amène tout au dépôt du FAO. Ouais. Ouais, je garde rien.
À Elodie Guézenec qui surveille
voilà.
Tout ça.
Voilà, très très bien.
Et on a fait un reportage, vous pouvez le réécouter sur le site de Radio Évasion. Et donc, alors, oui, vous avez compté combien vous aviez trouvé de donc 200 sites, mais combien de pièces là, vous avez peut-être pas compté,
là, on est dans des milliers de pièces. Ouais, je ramasse, mais encore, il y a certains sites, on ne peut pas tout ramasser parce qu'on serait sur des milliers de pièces. Ouais.
Mais vous êtes nombreux comme ça, les prospecteurs du Finistère?
Je sais que dans le pays Bigoudin, ils doivent être deux. Dans le Nord Finistère, il y en a un.
Ouais, donc vous n'êtes pas très nombreux.
Non, pas très nombreux.
Ouais. Ah oui. Et donc là, vous avez droit en ce moment à une exposition. On va terminer avec ça.
Parce il y a tellement de choses à dire.
Ouais, c'est ça. Voilà, vous reviendrez en fait.
Aussi, je travaille avec l'université de Rennes. Donc, des étudiants ont fait leur master et leur thèse sur mes recherches. Voilà, c'est génial. Hein.
Peut-être pas toutes vos recherches quand même.
Tout le mésolithique a été repris. D'accord. Et il y a eu un article qui est sorti dans la revue archéologique de l'Ouest. Donc il est publié officiellement.
Avec votre nom aussi alors.
Avec mon nom, je suis co-auteur. Bien, ouais, voilà.
Et vous avez droit là, à une exposition à Quimper, donc c'est la mairie de...
Erguermel.
D'accord.
Donc le but, c'était, comme je suis fait partie du conseil de quartier, demander s'il y avait des habitants qui avaient quelque chose en particulier, bah, moi je me suis proposé, j'ai dit oui, je veux bien présenter quelques cailloux en expo, si ça peut faire plaisir, parce que le but c'est ça à vrai dire. Et elle me dit bah, pourquoi pas, donc on a monté tout ça, et le CDA m'a prêté de superbes affiches. Ouais. Ah, ouais.
Ils vous ont prêté des pièces aussi pour les exposer
Non. Toutes mes pièces que j'ai trouvées à Quimper, donc je présente du paléolithique moyen, du mésolithique, du néolithique, donc Quimper Centre, Ergamel d'abord, Quimper et les environs de Quimper. Donc la mairie m'a prêté des vitrines, on a fait ça tout propre, nickel, il y a du monde, il y a des associations qui viennent. Là je vais recevoir le foyer Canard Mort de Douarnenez, personne invalide. Il y a une des personnes qui veut faire un projet sur l'archéologue, donc ils vont venir sur place.
Et c'est jusqu'à quand l'exposition?
C'est jusqu'au dernier jour de février, bon, 28 février. Ouais, oui, d'accord. C'est ouvert aux horaires de la mairie.
Et vous avez des pièces à vous, donc quand même,
oui,
vous avez eu le droit de garder des pièces. Alors.
Avant de les déposer, si vous voulez, ça, c'est des pièces qui sont un peu en transition.
Ah, d'accord.
Comme je suis en train de monter le dossier pour cette année. Donc après, je
en
vais.
Attendant, ouais, on
voilà.
Peut les voir.
Voilà, je les montre. Et puis après, je vais les déposer au FAO.
Et ça remonte jusqu'à Néandertal, c'est ça?
Oui.
Wow, pour
Quimper. Ouais, donc c'est première fois. Donc je suis tout fier.
Ah
c'est
bah
normal,
oui.
Il y a le droit.
Ah bah oui.
Et j'ai trouvé du Néandertal à Quimper, ça n'existait pas.
Formidable.
Voilà.
On vous félicite, David Duvollet.
Oh,
on vous réinvitera parce que franchement, c'est passionnant. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.